Je suis Anne Pios, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
Je m'appelle Marie, j'ai 34 ans. J'ai fait de l'anorexie, ça a commencé vers 24 ans. Déjà toute petite, je me revois manger un paquet de gâteaux en cachette, j'avais peut-être 7-8 ans. C'est mon mariage qui a déclenché ça, avec le fameux essai de la robe de mariée. Au début, en plus, on a beaucoup de réflexions positives de l'entourage. Après, je me suis mis au sport aussi, beaucoup de sport. On a l'impression de contrôler la chose. À tout moment, je reprends 2 kilos, pas de souci. Mais en fait, non. Le problème, c'est que c'est un peu long entre je tombe malade, je suis consciente que je suis malade, je vais me faire aider et j'ai envie de me faire aider. Ça a été vraiment mon plus gros déclic où je me suis dit, mais en fait, je vais pas arriver à 70 ans en me disant je suis passée à côté de ma vie, quoi. Il faut que tu vives. Je me rends compte que je survivais et maintenant que je vis. Et ça, ça change tout.
Bienvenue dans l'épisode 107 du podcast La pleine conscience du pouvoir, dans lequel vous allez découvrir un nouveau témoignage, celui de Marie. Avant de la rencontrer ensemble, je voulais vous rappeler que ce qui encourage le plus la visibilité du podcast, c'est vous. Vous qui le recommandez autour de vous, et pour cela merci, vous professionnels de santé qui en parlez à vos patientes et patients, vous qui laissez des notes et des avis sur votre plateforme d'écoute, vous qui vous abonnez au podcast, toujours par le biais de votre plateforme telle Spotify ou Apple Podcast. Merci donc pour cela, ces actions plutôt rapides pour vous ont un grand impact pour nous. Vous allez donc faire la connaissance de Marie, qui s'est rendue compte en thérapie que sa relation difficile avec l'alimentation avait commencé bien avant qu'elle ne souffre d'anorexie. Dès l'âge de 7-8 ans, Marie mangeait en cachette de ses parents et elle a grandi dans une famille où les préoccupations pour le poids et la silhouette étaient omniprésentes. Sa période d'anorexie a débuté avec l'essayage de sa robe de mariée un peu serrée. Marie a voulu s'adapter à la robe, puis prendre de la marge, la fameuse marge, et le trouble a pris le contrôle. Avec le sport en parallèle, le corps qui se sculpte, les compliments qui entretiennent la maladie, jusqu'à ce que le conjoint de Marie s'alerte et pose la question de l'anorexie. Marie a commencé à consulter et elle nous explique très bien les différentes étapes avant l'acceptation du début d'un changement. Je vous laisse découvrir le témoignage de Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Anne.
Je suis ravie de t'accueillir pour un nouveau témoignage sur la pleine conscience du pouvoir. En plus, je suis contente parce qu'on se voit. On se voit non pas parce qu'on est dans la même pièce, hein, parce que tu es très très loin de moi, mais on se voit par caméra d'ordinateur interposée. Est-ce que tu peux nous dire, Marie, où tu es ? Puisque je suis en train de dire que tu es très très loin, mais où es-tu ? Où es-tu ?
Je suis à San Francisco. J'habite là-bas depuis pratiquement 5 ans.
Ouais, c'est loin. Je suis en train d'enfoncer une porte ouverte là, mais tu sais, ça me paraît tellement tellement loin en fait que bon, bref,
peu importe. Je confirme, c'est le bout du monde.
C'est le bout. Ah oui, d'accord. Tu considères aussi que c'est le bout du monde. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent?
Comme tu l'as dit, je m'appelle Marie, j'ai 34 ans, je suis professeure des écoles en maternelle et primaire. Et donc, j'habite à San Francisco depuis quasiment 5 ans.
Et tu exerces ton métier d'enseignante là-bas ?
Exactement, dans une école franco-américaine.
Ok, waouh, c'est chouette ça. Bon, le sujet, c'est pas que tu nous racontes ce qui t'a amené là-bas, mais je suis super curieuse de ça. Mais voilà, c'est pas sur ce sujet-là qu'on s'est dit qu'on allait échanger aujourd'hui, hein, pour la pleine conscience du pouvoir. Alors, Marie, voilà, généralement, je propose de parler du parcours d'une manière chronologique. Je sais pas si ça te va comme récit.
C'est très bien, parfait.
Ok. Alors, dis-nous tout. Comment tout a commencé ?
J'ai fait de l'anorexie, ça a commencé vers 24 ans, c'est-à-dire un an avant mon mariage. Mais en fait, après beaucoup de psychothérapie, je me rends compte que finalement, des problèmes avec la nourriture, j'en ai eu quasiment toute ma vie. Déjà toute petite, je me revois manger un paquet de gâteaux en cachette, j'avais peut-être 7-8 ans. Et je le cachais dans mon placard avec mes habits, ce qui était complètement idiot, puisque c'est ma mère qui rangeait mes habits. Et du coup, elle découvrait mes paquets de gâteaux que j'avais cachés, puis elle rigolait, elle se moquait un peu de moi, voilà. Donc je pense qu'il y a quand même un passif qui est beaucoup plus que ça. Et puis en fait, même dans ma famille, je vois qu'on a tous des problèmes avec l'alimentation. Je soupçonne très très fortement ma mère de s'être fait poser un anneau gastrique et elle nous l'a jamais dit. Ma sœur fait de l'anorexie mentale et elle en est pas consciente. Et mon frère a un rapport qui n'est pas sain avec la nourriture. Selon les dires de ma belle-sœur, mais tout ça, c'est pas trop dit dans la famille, en fait.
Oui, oui, j'entends que dès toute petite, il y avait quelque chose de caché, en fait, de tabou. Hein, puisque tu nous dis, vers 7-8 ans, je cachais des gâteaux dans mon placard. Enfin, tu savais qu'il fallait pas le faire. Enfin, tu as une idée, en fait, tu te souviens des propos qui étaient tenus, des interdits qu'il y avait, s'il y en avait?
Alors, j'ai pas de souvenir. J'ai toujours eu l'impression que je pouvais manger librement, mais si je faisais ça, la preuve en est que non. Et ma sœur me dit qu'elle avait des réflexions sur son poids par ma mère. Moi, j'ai pas le souvenir, mais quand j'en ai parlé récemment à une amie, elle m'a dit « Mais si, quand je venais déjeuner chez toi au lycée, ta mère, elle te disait « Fais attention, mange pas trop ça », etc. » Et je m'en souviens pas. Donc je sais pas si c'est un déni ou autre, je pense qu'il y avait quelque chose de tabou dans la famille. Ma mère a toujours été forte et elle a toujours été complexée, elle s'est toujours un peu justifiée. Oui, mais ton père, il a toujours aimé les femmes un peu fortes. Il y avait quand même un problème,
un malaise
dont j'en n'étais pas forcément consciente.
Oui, et tu dis c'est intéressant parce que c'est le regard extérieur de ton ami qui te dit mais si, moi je me souviens quand je venais manger chez toi. Voilà, mais j'imagine que pour toi c'était normal en fait, puisque ça devait être tout le temps comme ça en fait, donc tu t'en
rendais
pas compte, quoi.
Exactement, oui. C'est pour ça que je pense que j'en ai pas conscience.
Oui, donc voilà, tu disais cette période d'anorexie visible et peut-être diagnostiquée, voilà, elle a commencé un an avant ton mariage, vers 24 ans, hein, c'est ça. Mais voilà, d'aussi loin que tu te souviennes, finalement, il y avait quelque chose, quoi, dans la relation
Exactement.
Avec l'alimentation.
Alors, en fait, j'ai fait de la boulimie aussi avant ma période d'anorexie, qui s'est arrêtée du jour au lendemain à 22 ans. Et ensuite, je suis rentrée petit à petit dans l'anorexie. Et donc, comme je le disais, c'est mon mariage qui a déclenché ça, avec le fameux essai de la robe de mariée.
Le fameux.
Oui. Exactement. Où j'ai essayé une robe qui m'allait bien, mais j'étais un peu serrée dedans. Et puis, la personne me dit, est-ce que vous voulez que je l'agrandisse un peu ? Je dis, non, vous inquiétez pas, parce que pour le mariage, je sais que je vais perdre 2 kilos. Donc, du coup, ça va être parfait. C'était vraiment 2 kilos, c'était pas énorme. Et puis, bon, donc je me suis mis à faire attention. Et puis, en fait, c'est un engrenage qui commence. Donc, on fait un petit peu attention, puis on est content, on perd un peu, etc. Au début, ça se voit pas, donc on n'a pas de réflexion des autres. Mais je me dis, je vais prendre une petite marge, parce que si jamais je reprends, on sort, c'est l'été, il y a les apéros, etc. Et puis, la petite marge est passée à 4 kilos. Et puis à 6 kilos, voilà. Et puis au début, en plus, on a beaucoup de réflexions positives de l'entourage.
Mais tu vois, avec le recul, tu avais réellement besoin, entre guillemets, de perdre ce poids ? Enfin, il y avait quelque chose de visible ?
Non, j'étais fine, j'étais normale en fait.
Tu étais déjà mince.
J'étais 36, oui, exactement.
Oui.
Donc,
oui.
J'étais complètement normale. Alors, je suis pas très grande aussi, donc c'est pour ça, mais. Non, j'avais pas le besoin. Après, je me suis mis au sport aussi, beaucoup de sport. Et en fait, ça m'a sculpté. Donc du coup, c'est pour ça, je pense que je recevais beaucoup
les
de
compliments.
Voilà, c'est-à-dire que j'étais mince et j'étais musclée, mais pas au sens négatif en fait. Je faisais entre 3 et 5 heures de sport par semaine, mais c'était malsain dans le sens où si je loupais une séance de sport, c'était la catastrophe. Ouais. J'étais capable de dire non à un dîner si j'allais pas au sport, de me lever plus tôt pour aller au sport. Avant un déjeuner, il fallait que j'aille faire mon petit footing ou ma séance de sport. Enfin, c'était malsain. J'étais malade, c'est pas grave, j'allais au sport.
Et oui, le piège commençait à se refermer sur toi, en fait.
Exactement. Mais comme je recevais des compliments de l'entourage, je m'en rendais pas trop compte et j'étais fière de moi. Non seulement c'est des compliments sur ta silhouette, mais aussi sur ton mental. Ah, t'es courageuse. Tu commences le week-end en faisant 2 heures de sport. Donc en fait, on se sent super puissante, quoi. Mais on a l'impression que, on a une force, on est hyper fière de nous et puis on continue là-dedans. Sauf qu'en fait, je perdais.
Oui, c'est cette fameuse, tu sais, les personnes qui témoignent ici parlent souvent de cette fameuse lune de miel, en fait. Du début
Exactement.
Du trouble, où il y a vraiment, tu le décris très bien, ce sentiment de puissance, presque de supériorité, de « moi j'y arrive », et puis pas eux. Enfin, tu vois, peut même y avoir une espèce de truc comme ça.
C'était pas forcément en comparaison avec les autres, mais en tout cas en comparaison avec moi-même. Avant, j'étais pas capable de faire du sport, etc. Et maintenant, j'y arrive. Enfin, vers l'âge de 25 ans, j'aime mon corps, etc. Et en fait... c'était une satisfaction en fait, un aboutissement un peu.
Et oui, parce qu'il y avait aussi quelque chose autour de, tu disais enfin j'aime mon corps, enfin autour de l'image corporelle, où avant tu étais un peu complexée ou en tout cas c'était pas satisfaisant pour toi, c'est ça?
Exactement, j'ai jamais aimé mon corps en fait, je me suis toujours trouvée grosse, même si je l'étais pas bien dans mon corps, complexée, c'était compliqué de me mettre en maillot, etc. Donc pour la première fois, grâce à tout ce sport, j'aimais mon corps en fait.
C'est ça, les compliments de l'extérieur plus ce qui se passait à l'intérieur de toi, ça encourageait à poursuivre en fait sur ce chemin-là.
Exactement, donc j'ai poursuivi, j'ai perdu encore, et puis... j'ai commencé à supprimer des choses de mon alimentation parce qu'il y a un peu le cliché du le gras ça fait grossir, les féculents le soir c'est pas bien, des choses comme ça. Donc je supprimais. Et puis je vivais avec mon mari, c'était mon fiancé à l'époque même quand ça a commencé, mais mon mari qui me faisait des petites réflexions, mais genre gentiment, dans le sens tu fais encore un gâteau à la banane, des choses comme ça, mais bon, rien de. Voilà. Et puis, il travaillait beaucoup, donc je pense qu'il ne se rendait pas vraiment compte. Je dînais pas forcément avec lui parce qu'il rentrait tard. Donc, je pense qu'il n'en était pas trop conscient. Jusqu'au jour où il m'a dit « Je me demande si tu ne fais pas de l'anorexie. » Et là, il a mis le mot sur la chose. Évidemment, à ce moment-là, je lui dis « Mais non, pas du tout. » J'en étais pas consciente. Et puis, ça devait être peut-être au mois de mars, avril ou peut-être mai. Et il me dit, tu devrais consulter, voir quelqu'un, etc. Je consultais pas du tout à l'époque. Je n'avais pas de psychologue ni de psychiatre. Et je lui dis, écoute, laisse-moi terminer l'année scolaire. Comme je suis prof, c'est jusqu'à début juillet. Et je m'en occupe. Et puis, en fait, au fond de moi, je voyais que ça n'allait pas. C'est-à-dire que... on a l'impression de contrôler la chose. À tout moment, je reprends 2 kilos. Pas de souci. Mais en fait, non.
C'est ça.
C'est beaucoup plus... difficile qu'on ne le pense.
Et entre-temps, il y avait eu ton mariage ?
Non, là, je suis même plusieurs années après, enfin peut-être un ou deux ans après le mariage.
Donc, c'est un processus qui a pris du temps, en fait.
Peut-être un an après le mariage, on va dire.
Okay.
Mais oui, et la robe n'était pas trop grande parce qu'à l'époque, j'avais perdu les 2 kilos que je voulais perdre.
C'est ça.
Et c'est tout, en fait. Mais c'est après, j'ai perdu encore deux.
Okay.
Et non, et le jour de mon mariage, j'ai eu plein de compliments, mais je me souviens très bien de mon cousin le lendemain de mon mariage qui m'a dit « Waouh, dis donc, t'es sculptée, ça te va bien, tu fais beaucoup de sport. » Et donc, c'était dans le côté positif. C'était pas le jour du mariage. « Ah, félicitations, t'es très jolie. » Et voilà, j'ai senti ce compliment très particulier.
Oui, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous expliques, c'est que finalement, c'est un processus qui n'a pas été une dégringolade. Parce que tu sais, on peut avoir cette image du process de l'anorexie, de quelque chose de fulgurant, de soudain, d'une jeune fille ou d'une jeune femme qui perd 10 kilos en quelques semaines. Enfin, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est inscrit progressivement, en fait.
Exactement. Et du coup, en sortir, c'est aussi très progressif, d'ailleurs.
Oui, mais... oui. Quoi qu'il en soit. Oui.
Voilà.
Oui. Et donc, ton mariage passe, hein, là, c'était le début. Et puis, voilà, ton mari commence à s'alerter, finalement, et à mettre des mots. Hein. C'est intéressant. Il était sensibilisé, lui, à ces questions de comportement alimentaire. Ah non, pas du tout. Mais il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas
alors,
normal.
Alors, il voyait bien. Après coup, quand on en reparle, il me dit, je me suis renseignée, du coup, j'ai un peu regardé sur Internet. Etc. Et c'est là où je me suis dit, tu coches beaucoup de cases et voilà.
Oui.
Et puis j'ai des amis aussi qui ont essayé de lui parler et de me parler.
Ah.
Mais à l'époque, j'étais complètement réfractaire.
Et
je me souviens d'une amie qui m'a proposé un dîner et qui m'a dit, mais t'aurais pas des problèmes avec la nourriture, etc. Moi, non, pas du tout. Voilà.
Oui, ce fameux « je contrôle la situation », en fait. J'arrête
exactement.
Quand je veux, tu sais.
C'était ça. Moi, j'étais persuadée qu'à tout moment, je reprenais du poids. Donc, je me souviens, pour le mariage de ma meilleure amie, alors, c'était bien après, et je me trouvais maigre, mais j'étais là, non, mais j'essayais ma robe, j'étais là, mais c'est pas grave, j'aurais repris 2-3 kilos pour le mariage. Et en fait, j'ai jamais réussi à les reprendre, ces kilos. Donc, voilà.
Oui.
Donc, je suis allée voir, sous les conseils de mon mari, alors une psychiatre spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, c'était à Paris. Et le problème, c'est que c'est un peu long entre je tombe malade, je suis consciente que je suis malade, je vais me faire aider et j'ai envie de me faire aider. Donc j'allais la voir. Elle me disait plein de choses très intéressantes. Mais ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre, et j'arrivais pas encore à me faire aider à l'époque. Alors, ça me faisait du bien quand même. Hein.
Oui. Oui, c'est important que tu décortiques ces deux étapes qui sont très différentes en fait dans le processus. Hein. Je suis consciente, je demande de l'aide, mais la maladie prend encore trop de place en fait, celle qui a le gouvernail encore.
Exactement. Ça me faisait du bien, mais j'arrivais pas à mettre en place tout ce qu'elle me disait de mettre en place. Ou parfois c'était même oui, je comprends, mais en fait non, c'est pas pour moi. Enfin, ça a mis du temps. Et ça a commencé petit à petit à aller mieux, mais vraiment très lentement. Sauf que après on a déménagé aux États-Unis. Et donc en fait, je pense que sans m'en rendre compte, ça a été un grand chamboulement dans ma vie. C'était à l'aube de mes 30 ans. On arrive ici, je connais personne. Alors, j'étais pas du tout malheureuse. Hein. J'étais hyper contente de déménager. Ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de choc culturel. Je me suis tout de suite fait ma vie américaine. Donc, pour moi, il n'y avait pas de souci. Mais j'ai encore perdu du poids. Et pas mal de poids, d'ailleurs. Et en fait, je me souviens très bien avoir récupéré mes affaires qui arrivaient dans des containers. Et donc, ma balance. Et me peser. Et là, j'ai fait... Ah oui. Et je m'étais pas rendu compte en fait que j'avais encore perdu beaucoup de poids. Alors, je m'étais rendu compte parce que je ne m'aimais pas du tout physiquement. Je me voyais très maigre. Quand j'en parlais avec une de mes amies récemment, elle m'a dit « Ah, c'est rigolo, j'étais persuadée que les anorexiques se trouvaient grosses. » Et je dis « Non, pas toujours. Souvent, mais pas toujours. » Moi, je voyais que j'étais maigre, je me détestais. Dès qu'on prenait une photo de moi, je pouvais pas la regarder. Je me disais « Mais c'est pas possible, je suis squelettique. » Et donc, c'est tout le paradoxe de cette maladie, c'est que tu te trouves squelettique, tu te dis qu'il faut que tu reprennes du poids, mais tu n'y arrives pas.
Eh oui, et c'est vraiment une illustration, entre autres, que c'est une maladie qui se passe dans la tête, en fait, que c'est un trouble psychique. Que, oui, bien sûr, ça touche le corps hein, et ça touche la physiologie. Et que là aussi, où ça touche l'image corporelle, c'est pas forcément dans le sens « je me trouve trop grosse », en fait. Ça touche l'image corporelle, il y a une détestation ou en tout cas un rejet de la forme du corps, mais pas forcément tel qu'on le pense, en fait. En tout cas, c'est pas systématiquement « oh là là, c'est trop gros ». Ou tu vois, moi, ce que j'entends aussi régulièrement, c'est cette focalisation sur une partie du corps. Où les personnes peuvent dire, bah, je trouve qu'effectivement, souvent au niveau des clavicules, des bras, c'est trop maigre, c'est difficile pour moi de me voir comme ça. Mais par contre, mes cuisses sont énormes. Enfin, tu vois, peut y avoir cette dysmorphophobie qui. Mais ce que tu dis, c'est que toi, non, t'avais vraiment une vision claire. Enfin.
Je pense que c'est propre à chacun. Mais moi, effectivement, je me trouvais vraiment trop maigre. Je me cachais, je sortais de la douche vite, je mettais mon peignoir. Je ne m'aimais pas. Mais bon. La maladie était là, c'était compliqué d'en sortir. Et même si je m'aimais pas, je continuais dans cette restriction et dans le contrôle. Et puis, ensuite, le Covid est arrivé. Et donc, ici aux États-Unis, on a aussi été confinés, on a travaillé de la maison. Et donc là, mon mari a passé plus de temps avec moi. En fait, on était H24 ensemble. Et je pense qu'il s'est rendu compte que ça n'allait pas à nouveau.
Oui.
Que les petits progrès que j'avais faits jusqu'à maintenant avaient complètement disparu. Et il m'a dit, tu sais, il faudrait, je pense, que tu ailles revoir ta psy. Parce qu'en fait, en déménageant, à l'époque, il n'y avait pas de visio. Et en déménageant, j'ai arrêté.
Et oui.
Alors pareil, c'était peut-être... du coup, le confinement était au mois de mars. Il a dû me parler au mois d'avril ou mai. Et la fin de l'année ici est mi-juin. Donc je lui dis pareil, laisse-moi terminer l'année. Il faut que je processe. Donc j'ai processé. Et puis je l'ai rappelée. Et en fait, avec le Covid, elle faisait des consultations par téléphone. Donc je me suis remis à la voir tous les 15 jours par téléphone. Je voulais vraiment que ça soit elle parce que elle connaissait mon histoire et j'avais vraiment confiance en elle. Ça me faisait du bien et voilà. Parce que je dis que j'ai vu la psy pour la première fois, mais en fait j'ai quand même essayé l'hypnose aussi, mais bon, ça n'a rien donné. J'étais pas en confiance. Enfin, ça n'allait pas. Donc j'ai revu la psy en 2020 et ça me faisait du bien. J'avais des petits objectifs chaque semaine, donc j'avais, je faisais des progrès, mais c'était encore très lent. Et je me trouvais maigre, mais je n'arrivais toujours pas à prendre du poids. Enfin, je reprenais du poids, j'avais un gros palier, puis je reperdais. Je reprenais du poids, j'avais un gros palier, puis je reperdais. Donc ça a mis un temps fou, en fait, pour que je reprenne du poids. Et pareil, je me disais, c'est facile, etc. Mais non, c'était pas facile. Et en fait, dans ma tête, j'étais là, mais... Marie, t'as la chance de pouvoir manger ce que tu veux et pourquoi t'y arrives pas? C'est dingue. T'as plein de filles qui aimeraient être à ta place, qui aimeraient pouvoir manger du Nutella quand elles veulent, un pain au chocolat quand elles veulent, un burger frites quand elles veulent. Vas-y! Je me le disais, mais j'y arrivais pas.
Eh oui, la part de toi hein, qui allait vers la vie, qui allait vers la guérison, elle essayait d'encourager, mais la part de la maladie était encore trop présente, hein, trop puissante. C'était plus fort que cette part-là bienveillante envers toi-même, en fait.
C'est la fameuse petite voix que beaucoup d'anorexiques ont et qui dit « Non, tu devrais pas manger ça, non, ça fait grossir, etc. »
Oui.
Non, c'est pas l'heure, parce que c'est pas que la restriction, c'est aussi... Par exemple, ici aux États-Unis, on mange souvent avant 7 heures. Quand on se retrouve chez des amis, l'apéro, c'est plutôt 6 heures, tout est plus tôt. Mais moi, avant 7 heures, c'était pas l'heure de manger. Donc, ça a été compliqué au début de me dire je vais prendre l'apéro ou je vais manger avant 7 heures.
Ah oui, parce que tu avais aussi des règles rigides au niveau des horaires, en fait.
Exactement.
Ouais, y avait la restriction en quantité, en type d'aliment, mais aussi en horaire pour manger, quoi.
Et il y avait aussi la peur de ne pas avoir faim. Donc parfois, je me restreignais parce que j'avais peur de ne pas avoir faim plus tard. En me disant, on a un dîner avec des amis, ou même pas d'ailleurs. C'était, j'avais peur de ne pas avoir faim, donc je préférais manger peu pour être sûre d'avoir faim plus tard. Parce que je pense qu'en fait, mine de rien, j'avais complètement déréglé mon corps et j'avais réduit mon appétit. Et du coup, la faim était plus longue à venir. Et en fait, aujourd'hui, quand je mange beaucoup, je me rends compte que le corps se régule plus tout seul. Et parfois j'ai peur de... Enfin, j'ai plus peur de pas avoir faim, mais je me dis, je vais pas avoir faim pour le dîner, c'est sûr, j'ai trop mangé, etc. Et je m'en fiche, et finalement la faim, elle revient.
Voilà. Elle finit toujours par revenir.
Exactement. Peut-être qu'on a moins faim, etc. Mais en fait, il faut faire confiance à son corps. Son corps se régule.
Et
la nature est bien faite.
Sauf qu'au cœur de la maladie, ces signaux-là, ils sont plus du tout fiables, en fait. C'est ce que tu disais.
C'est-à-dire que parfois, je mangeais deux bouchées, j'avais déjà plus faim. Et je dis à mon mari, j'ai plus faim. Et c'était pas du mensonge, j'avais plus faim, en fait. Mais c'est juste que j'avais complètement déréglé mon corps. J'avais plus de signaux. Et à contrario, par exemple... je me souviens me réveiller avec la faim au ventre et voir je mâchais dans mon sommeil parce qu'en fait du coup j'avais mangé trois bouchées mais qu'en fait à 2h du matin mon corps criait famine en fait.
C'est ça.
Petit à petit avec l'aide de la psy, j'ai recommencé à remettre des petites choses dans mon alimentation, mais c'était très lent. Alors j'ai repris du poids, j'étais mieux, mais bon, j'étais encore malade complètement. Jusqu'au jour où, c'était il y a peut-être un an, j'attendais mon mari qui rentrait du travail, et puis j'ai des albums photos dans le salon, et je sais pas pourquoi, je regarde les albums photos, et je tombe sur une photo de moi, plus ronde, effectivement, avec une coupe de glace énorme, avec plein de caramel, d'achantilly, etc. Mmh. Et un sourire jusqu'aux oreilles. Mmh. Et je me souviens très bien de cette photo, c'était à Cabourg. On était partis en week-end. Et je me revois, et là je me dis, mais c'est pas possible en fait. Mmh. À quel moment je suis passée de la fille comme ça, qui était bonne vivante. Alors, effectivement, hein, je m'aimais pas, je culpabilisais, etc. Mais au moins, je vivais. Mmh. À ça, aujourd'hui, la fille qui est pas capable de se faire plaisir, en fait.
Oui, même plus largement que la nourriture. Hein. Quand je t'entends là dire passer à cette fille qui ne peut même plus se faire plaisir, enfin, il y a... Enfin, je me demande du coup si c'était pas venu gangréner tout en fait dans ta vie.
Bah, disons que en tant que Français, la nourriture prend une grosse partie.
C'est vrai.
Voilà. Ouais. Donc forcément, les anniversaires, c'est des bons repas, tout ça. Donc forcément, ça bloque un peu la vie sociale, etc. Alors, j'arrivais à sortir, à aller au resto sans problème. Hein. J'étais hyper contente d'aller au resto, j'avais pas peur, etc. Mais du coup, derrière, c'était plus de la restriction, tout ça. Donc voilà. Mais forcément, ça entache ta vie sociale et ta vie de couple, en fait.
Et
parce
oui.
que... Bah, pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'étais au resto avec mon mari, puis il me dit « Tu veux une entrée ?» Je dis « Non, merci, j'ai pas très faim. » Alors avant, c'était impossible de prendre des entrées. Depuis, je partage souvent une entrée avec lui, mais il se trouve que c'était un déjeuner, on avait bien mangé la veille, parce qu'on était aussi allé au resto, on était à l'étranger. Et puis son entrée arrive, et puis je me dis « Oh, ça a l'air bon. » Donc je partage finalement l'entrée avec lui. Ce qui n'était pas du tout prévu, puisque je lui dis « Non, merci, j'ai pas très faim. » Mais cette entrée me donnait envie. Mmh. Et puis je pique dans son entrée, et puis je lui dis « Oh, je suis désolée. » Je suis désolée parce qu'en fait, ça devait être chiant, hein. Excusez-moi l'expression, mais ça devait être chiant d'être avec une fille qui était tout le temps dans le contrôle et qui, en fait, quand t'es pas avec une bonne vivante, bah oui, c'est pénible, quoi. Mmh. Et alors, c'est rigolo parce que sa réponse, lui, ça n'a pas été de me dire « Non, t'inquiète pas, c'est moi qui suis désolée de ne pas avoir vu que tu allais mal.
Oh. »
Donc,
ouais. En même temps, c'est lui hein, qui t'a alertée. Hein, je reste
exactement.
Avec ce moment où
oui.
Il a tiré
exactement.
La sonnette d'alarme, en fait. Hein.
Oui, exactement. Ouais. Non, et puis honnêtement, sans lui, la psychiatre a fait beaucoup, mais il a été toujours à l'écoute, il m'a jamais brusqué. Mmh. Il savait qu'il y avait des moments où il fallait pas me parler. Il essayait à des moments de me parler, mais s'il voyait que je me refermais... Donc il a été d'une grande aide pour ça, honnêtement, et très patient. Et c'est sûr qu'il en faut de la patience.
Oui, et ça parle aussi, tu vois, bah, je serais peut-être curieuse de l'interviewer un jour s'il a envie, hein, mais du rôle de l'entourage aussi, hein, que ce soit les parents pour les adolescents ou les jeunes adultes, ou les conjoints ou conjointes, dans le cas de personnes qui vivent en couple. Mais ça parle vraiment de ce rôle qui est de la dentelle aussi, hein, du conjoint soutenant.
Mmh. Là, c'est marché sur des œufs non-stop, hein,
c'est ça.
Clairement.
C'est ça, c'est ça. Ouais,
donc,
oui.
Donc, il m'a beaucoup aidée. Et donc, voilà, je
oui,
j'en
voyais
cette photo.
Cette photo, hein, on en était là. Hein, tu vois cette photo de toi à Cabourg devant cette coupe de glace avec un sourire jusqu'aux oreilles, en fait.
Et donc, il rentre et je lui en parle de cette photo. Je lui dis, non, mais honnêtement, comment j'en suis arrivée là? C'est dingue, etc. Et je pense que ça a été un gros déclic. Ça a été vraiment mon plus gros déclic où je me suis dit, mais en fait, je vais pas arriver à 70 ans en me disant, je suis passée à côté de ma vie, quoi. Il faut que tu vives. Mmh. Et j'ai envie de vivre. Et donc, vraiment, ce soir-là, je me suis dit, stop. Voilà, évidemment, je me le suis dit, c'est plus difficile que ça. Mais vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et même ma psychiatre m'a dit... vous devriez prendre la photo en photo et la mettre sur votre téléphone.
Ouais.
Donc, c'est ce que j'ai fait. De temps en temps, je la regardais en me disant « Rappelle-toi, en fait, d'où tu viens et où tu veux aller. »
Et oui, c'était un sacré soutien, en fait, dans cette motivation pour avancer dans ce processus-là. Hein.
Exactement. Et donc, ça a commencé à aller nettement mieux. Après, j'ai aussi appris que mon beau-père était malade. Il avait une maladie génétique. Et ça aussi, ça a été mon deuxième déclic en me disant « La vie est trop courte, tu sais pas ce qui peut t'arriver, profite de la vie en fait, peu importe. » Et même si tu reprends du poids... Parce qu'en fait, c'est pourquoi tu prends pas du poids, c'est cette fameuse peur de grossir, en fait. C'est qu'on a envie, mais on a peur.
Oui, parce qu'à la fois, tu avais cette vision de ton corps que tu n'aimais pas, qui était trop maigre, Mais malgré tout, il y avait cette peur de le voir changer et reprendre des formes.
Exactement. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même très commun.
Oui.
Beaucoup de personnes qui souffrent d'anorexie, c'est vraiment cette peur de grossir. En fait, on a l'impression qu'on va prendre 20 kilos. Alors qu'en fait, non, comme je disais, le corps est bien fait. Et donc, non, on ne prend pas 20 kilos comme ça. Et puis, même si on devait prendre 20 kilos en plusieurs mois, c'est peut-être aussi qu'on en avait besoin.
Alors, comment tu l'as travaillé, cette peur de grossir? Comment tu as avancé sur cette question-là?
Alors, la psychiatre m'a beaucoup aidée. Et puis, en fait, c'est surtout voir qu'il n'y a rien qui se passe. Que j'ai beau manger beaucoup plus, et en fait, je vais prendre un kilo en un mois et demi,
c'est
deux
ça.
Mois.
Ben oui.
Puis un kilo, puis un kilo. Voilà. Et en fait, me rendre compte que c'est beaucoup plus lent que ce que j'imaginais.
Ouais.
Et du coup, en fait, c'est faire confiance à son corps. Mais tout ça, c'est vraiment un travail psychologique qui est quand même assez long.
Et oui, un travail de fourmi. Hein.
Exactement. Donc voilà, tout ça m'a aidée. Alors maintenant, j'ai repris beaucoup de poids. Je dis toujours que j'aurai quand même une faiblesse. Je me méfie, même si maintenant, je vis, en fait. Ça fait du bien. Je disais à mon mari, il y a quelques mois, je lui disais, en fait, je me rends compte que je survivais et maintenant que je vis. Et ça change tout.
Et oui, et est-ce que tu peux aujourd'hui te réidentifier à cette jeune femme devant sa coupe de glace à Cabourg, même si tu es peut-être pas retournée à Cabourg, mais en tout cas là où tu es aujourd'hui?
Je ne suis pas retournée à Cabourg, mais oui, je me réidentifie dans le sens où en fait, maintenant je suis capable de manger par gourmandise, j'ai plus faim, ça me donne envie, c'est pas grave, il y a cette coupe de glace devant moi, je vais la manger, j'ai plus très faim, mais je vais la finir parce que c'est super bon et que je prends plaisir, et puis on verra demain. Voilà, c'est juste profiter de la vie.
Oui, je suis avec ces deux déclics dont tu nous parles, et le second avec l'annonce de la maladie de ton beau-père. Et tu sais, ça me fait penser à un exercice qu'on fait parfois. Alors, il prend plusieurs formes, mais ça peut être, imagine ce que tu voudras voir gravé sur ta pierre tombale ou l'hommage que les personnes qui seront à tes funérailles feront de toi. Et qu'est-ce que tu as envie qu'il soit dit, en fait? Est-ce que ça va être, elle a réussi à contrôler son alimentation toute sa vie ou quelque chose comme ça, Et je trouve que mettre en perspective, justement, ces questions de vie ou de mort, parce que ça peut paraître étrange ou faire un peu peur de s'imaginer cette situation-là, mais n'empêche que c'est ça qui est en jeu, finalement. Est-ce que j'ai envie de vivre, d'aller dans le sens de la vie et d'être dans... Pas forcément d'être dans une insouciance totale, mais où est-ce que j'ai envie de mettre mon focus, en fait? De quoi j'ai envie de me préoccuper? Et qu'est-ce qui va être important de me préoccuper? Et là, quand on rencontre,
exactement,
comme toi, un proche qui a un diagnostic difficile ou qui a un décès dans la famille ou que... ça remet en perspective, en fait.
Il y a une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est les podcasts, dont ton podcast et beaucoup d'autres podcasts. Et puis Instagram, en fait, des comptes qui parlent un peu de la libération de la nourriture, se libérer sur la nourriture, etc. Et ça m'a énormément aidée. Et effectivement, il y a un moment, je suis tombée sur un post d'une fille sur Instagram qui dit, est-ce qu'à ton enterrement, la personne va dire c'était une fille extraordinaire, elle pesait tant de kilos? Jamais. En fait, on va dire quoi? Qu'on était bonne vivante, qu'on aimait faire la fête, qu'on aimait aller au resto et profiter. Et c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment se dire ça n'a pas d'importance, en fait. Personne va te juger sur ton poids ni quoi que ce soit. Et plus sur ta façon de vivre et tes petits bonheurs. Donc, voilà.
Ça.
Donc oui, les podcasts et les comptes Instagram ont énormément, énormément aidé. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui a fait que... il y a aussi ça.
Oui, ça a participé. De par le fait aussi peut-être d'entendre justement des témoignages des personnes qui venaient parler
exactement.
De leur parcours.
Exactement. Je passe beaucoup de temps sur Instagram. Mon mari râle si un jour tu passes par là, je suis désolée, mais c'était pour mon bien-être.
C'est ça.
Ça aide.
En fait,
ça aide de savoir qu'il y en a qui s'en sont sortis, parce qu'en fait, quand on est dedans, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. On se dit, mais moi, j'y arriverai pas, en fait. Et je disais que j'ai une faiblesse et que je suis très prudente.
Oui.
Donc, je dis pas que je suis guérie, je dis que je suis en rémission. Parce que je me méfie, je sais que ça peut réarriver.
Oui.
Je peux retomber dans l'anorexie, que j'aurai toujours une faiblesse, je pense. Mais ça, c'est mon propre avis. Il y en a qui disent qu'ils s'en sont sortis et qui se sentent complètement sortis et qui pensent qu'il n'y aura pas de soucis. Mais aujourd'hui, en tout cas, je me sens vivante.
Oui. Et tu vois, souvent, ce que les personnes partagent par rapport à cette faiblesse, c'est que avec tout le processus déjà parcouru, elles peuvent peut-être voir plus rapidement les signes, tu vois, et se dire, oula,
exactement.
Qu'est-ce qui se passe? Ou bah voilà, j'ai entendu que ton conjoint était très sensibilisé, lui aussi, et peut-être, voilà, voir aussi avec toi, ok, tiens, je suis en train de remettre en place un peu de contrôle, tiens, je suis en train d'avoir des pensées de restriction qui reviennent, d'avoir des idées autour de perte de poids, et que du coup, la part qui va bien aujourd'hui, qui est en toi et qui est bien plus forte, aura peut-être la possibilité d'alerter, en fait, et de dire, oula, attends, regarde ce qui est en train de se passer là. Et du coup, soit de redemander de l'aide rapidement, soit de toi-même, tu vois, dire non, attends, c'est bon, là. Finalement, quand tu parles de fragilité, ça me fait penser au fait qu'on a peut-être tous et toutes des signaux d'alerte comme ça, qui viennent nous dire, oh, ça va pas toi en ce moment, oh, qu'est-ce qui se passe? Et que, pour certains Exactement. D'entre nous, c'est la relation avec l'alimentation qui va montrer ça.
Je pense, c'est sûr que je suis plus alerte. La psy m'a dit à un moment, je pense qu'on peut arrêter le suivi, etc. Et moi, je lui ai dit non, en fait. Mmh. Je lui ai dit, j'aimerais bien continuer un peu de temps en temps. Alors, pas du tout aussi souvent qu'avant. Mmh. Mais voilà, je veux quand même continuer et savoir que j'ai un soutien. Mmh. Et donc, voilà, si jamais j'ai des signes, je peux lui en parler, etc. Je pense qu'effectivement, mon mari, maintenant, connaît bien le sujet, donc sera plus alerte. Mais c'est rigolo parce que il y a quelques mois, sa tante est venue à San Francisco et c'est une toute petite mangeuse. Et du coup, de voir quelqu'un manger si peu, du coup, quand on sert, on a tendance à se servir un petit peu. Parce qu'elle se servait en premier, forcément. Et donc... Et du coup, là, j'ai eu une alerte. Je me suis dit, mince, attention. Et j'en ai parlé à mon mari. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai eu un peu peur parce que quand ta tante est venue, elle mangeait pas beaucoup. Du coup, j'avais tendance à manger pas beaucoup. Et en fait, ça m'a rassurée parce qu'il m'a dit, alors, faut savoir que mon mari est un mangeur intuitif. Hein, et ça, c'est très agréable à voir. C'est-à-dire qu'il se pose pas la question de quelle heure il est, etc. De quoi il a envie, il mange. Il a pas envie, il mange pas. Il a plus faim, mais c'est bon, il continue.
Oui.
Voilà. Donc ça aussi, ça aide. Hein.
Et oui.
Et lui m'a répondu en disant, non, mais tu sais, même moi aussi, ça me poussait pas beaucoup à manger. Enfin, ça l'a chamboulé.
Oui.
Et du coup, ça m'a rassurée en me disant, bon, déjà, arrête de tout voir autour de l'anorexie, en fait. Parfois, c'est pas ça. Et puis, quand elle est partie, tout est retourné à la normale, etc.
Oui. Oui.
Mais oui, j'ai quand même cette petite alerte dans ma tête qui me dit, fais attention.
Et là, bon, c'était contextuel, en fait. Hein, et c'est intéressant que vous ayez vécu tous les deux la même chose, finalement. Hein, sans aucun trouble pour lui, quoi. Et oui, comme quoi notre entourage nous modélise, hein, qu'il y a un truc comme ça, ou qu'on n'ose pas. C'est vraiment intéressant, je trouve, cette expérience-là que tu as vécue. Enfin, que vous avez vécue, du coup.
Je pense que c'est sûr que l'entourage influence beaucoup parce que quand on voit ses parents, ça nous donne une idée de comment manger, etc. Et une autre petite anecdote, donc je pense que ma sœur souffre d'anorexie mentale, mais elle n'en est pas consciente. Mm-hmm. Et quand je suis allée chez elle il y a quelques mois, c'était son anniversaire et l'anniversaire d'une de ses filles. Elles sont nées le même jour. Et ma sœur ne mange jamais de gâteau. Et sa petite dernière... lui dit « Mais maman, pourquoi toi tu prends jamais de part de gâteau ?» Et ça m'a fendu le cœur. Elle lui dit « Oh, tu sais ma chérie, là j'en ai pas envie, mais parfois je mange des parts de gâteau, etc. » Et en fait, elle donne déjà un modèle en fait à sa fille. Donc c'est sûr que l'entourage...
absorbe.
Influence, exactement.
Et oui,
c'est sûr.
Tout à fait. Et justement, dans les relations avec tes parents, alors qu'est-ce que ça a donné toutes ces années? Est-ce que eux se sont rendus compte de quelque chose? Est-ce que vous avez pu en reparler finalement?
C'est tabou, on n'en a jamais parlé. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte assez tard, à mon avis. Je crois même qu'ils en ont, si mes souvenirs sont bons, un peu parlé à mon mari. Mais rapidement, et en fait, comme je pense que ma mère a un problème avec l'alimentation... elle a vite balayé le sujet parce qu'en fait, ça l'arrange pas trop d'en parler, je pense. Donc non, ça reste très tabou.
Oui, ça reste tabou. Et ce que tu disais aussi au début de ton témoignage, c'est que finalement, ça a touché tous les enfants du foyer, en fait. Hein. Toi, ta sœur, ton frère,
ouais.
Ta mère, peut-être ton père aussi, je sais pas.
Non, alors mon père, c'est un gros mangeur, très intuitif aussi. Il est très mince, il mange tout le temps. Et non, je pense que mon père, non. Mais pire que tabou, d'ailleurs, parce que tu me demandais sur mes parents, c'est même que ma mère essayait de justifier, en fait, ma maigreur en disant... Ah, toi, t'es comme ton père, tu manges bien et t'es toute mince. Mmh. Alors qu'en fait, non, c'était pas ça. Même si je pense que je tiens de mon père, non, c'était pas ça. Et en fait, je pense qu'elle le cachait, elle le camouflait de cette façon-là.
Mmh, oui, c'est ça. Il y a encore aujourd'hui un voile, en fait, sur tout ça.
Exactement.
Tu penses que tu vas faire écouter l'épisode à tes parents?
Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas.
Oui. Bon, peut-être. Après, voilà, peut-être. Je suis en train de voir qu'on est bientôt à la fin de cet épisode. Marie, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu voudrais nous partager ou un message que tu as vraiment envie de faire passer? Enfin, comment tu aimerais conclure ton témoignage?
Moi, le message que j'aimerais faire passer, ça serait accepter la main tendue, en fait. C'est dur, mais si quelqu'un vous fait une petite allusion, essayez d'aborder le sujet, ne vous refermez pas et acceptez vraiment l'aide extérieure parce qu'en fait, on a l'impression qu'on peut s'en sortir seul. Mais en fait, c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Donc, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui vous en parle, surtout n'hésitez pas à l'écouter et aller voir des spécialistes parce que, donc, comme le mot l'indique, ils sont spécialisés là-dedans et ça aide énormément.
Oui, et je repense à ce moment où finalement ton conjoint a tendu cette perche et où toi, ça a mis du temps, ça a été tout un process en fait, mais pour pouvoir l'apprendre et l'entendre et avancer avec ça, quoi.
Mais même si on n'est pas prêt, il faut l'accepter et c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Mais vraiment accepter cette aide parce que c'est grâce à ça que vous vous en sortirez.
Je te remercie beaucoup, Marie, d'être venue à ton tour contribuer en apportant ton témoignage. Merci de cette générosité. Moi, je suis toujours hyper touchée quand des personnes comme toi viennent à moi et me disent « Mais moi aussi, je veux ajouter une pierre à l'édifice. Je veux qu'il y ait un témoignage de plus. » Enfin, quand on pense, nous avons passé les 100 en novembre de l'année dernière, hein, puisqu'il va être diffusé l'épisode que nous enregistrons aujourd'hui en 2024. On aura déjà passé la barrière de la nouvelle année. Et il y a tous ces témoignages qui sont déjà là, en fait, et le tien encore en plus, et d'autres qui vont arriver. Merci, parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire aujourd'hui de pouvoir trouver toute cette matière, en fait, sur la pleine conscience du pouvoir.
Merci à toi, Anne, parce que vraiment, ça aide. Et je suis convaincue que ça aide beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Donc merci pour ton travail en tout cas.
Oui, venez nous le dire alors. Est-ce que tu serais d'accord, Marie, que des personnes te contactent après l'écoute
bien
de cet
sûr.
Épisode? Ok, tu nous diras par quel biais et puis nous mettrons dans la description de l'épisode un moyen de se contacter.
Pas de souci.
Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, Marie.
Au revoir, Anne.
Nous voici à la fin de cet épisode 107. Merci de votre écoute. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien vers le compte Instagram de Marie. N'hésitez pas à la contacter et à nous faire vos retours après l'écoute de ce nouveau témoignage. À très bientôt pour un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir.